L'embûche des farfadets. Jamais pédant ni pluvieux, il plaisait aux plus simples par sa familiarité et sa puissance, et aux autres par ce don qu'il possédait de disposer d'un désagrément par une image inattendue. C'est avec Klein surtout qu'il se livrait à ses exercices. L'heure déjeuner rituel de la brasserie des bords du Rhin donnait à Pierre l'occasion de déblatérer sans mesure, et Klein donnait admirablement la réplique, le nez fonesque levé au vent, les oreilles pointées vers le ciel et le regard tendu vers l'impalpable. Ceux qui ne le voyaient que de temps à autre et ceux qui l'écoutaient mal ne retenaient de Pierre que ses boutades et ses écarts. Le retrait, l'étrange abstention volontaire dont il faisait preuve déroutait même ses proches. Le nombre restreint de ses disciples authentiques peut s'expliquer ainsi. Seul Lenormand lui demeurera fidèle. Il prononcera son éloge, après la guerre, dans cette même salle blanche, rouge et or de l'académie où Alcossé était devenu fou. Avec Cunéo, Gosset, Proust et Lenormand, Augustin Pierre fonda aux environs de 1910 le journal de chirurgie. Déjà il avait publié de si beaux travaux personnels que son exposé de titre, au concours des agrégés, avait fait sensation. Sa communication sur l'asepsie connut un vif succès. Son précis de pathologie chirurgicale et son précis de médecine opératoire devinrent bientôt classiques. Augustin aimait s'abîmer dans le travail. Le silence de la nuit, la fumée du tabac aiguisait en lui cette envie de travailler à laquelle il donnait en esprit des majuscules. La vision des feuilles noircies jetées à terre les unes, après les autres le mettait en joie. Peu de moments, lui était aussi précieux que celui du café entre deux chapitres, ou de la promenade nocturne vers le marché aux chevaux, quand il avait l'impression d'être arrivé au bout de lui-même et de ne pouvoir écrire davantage. Pour se distraire, il dessinait aussi, des rues, des maisons, des porches, des dessus de portes, le dôme de la salpêtrière, des machines étranges imitées de Vinci, avant de reprendre les croquis anatomiques où il excellait. Oui, à cette époque, Augustin était heureux. Lorsque Lenormand fut nommé à Cochin bien plus tard, il emporta les originaux des croquis anatomiques. Klein eut les machines. Les autres dessins ont été perdus. Aujourd'hui, la brasserie des bords du Rhin est devenue un endroit à la mode. Les Américains y sont refoulés à l'étage. Les places au vent près de la porte tambour sont les plus recherchées. On y parle fort. De jolies femmes aux gestes perdus se font voir. Dans la cour de la salpêtrière, il ne passe plus beaucoup de manteaux bleus. Le marché aux chevaux, près de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, a disparu, et aussi les pavés de bois de l'impasse, qui éclataient sous la chaleur de l'été avec des bruits de fusillade. Mais en descendant le boulevard, on peut toujours imaginer, derrière les murs noirs, le commencement du monde, et derrière les serres, la forêt tropicale. Le muséum et son jardin n'ont pas changé. 15 Romain, elle lui resterait inconnue. Il l'avait épousée quand elle était bien jeune, et c'est avec lui qu'elle avait vieilli. Effet de l'habitude et des déplacements insensibles qui se font au jour le jour, il n'était pas très sûr de savoir qui elle était. Non qu'il doutât un seul instant de ses qualités de femme, de mère, ou même d'être humain. Il trouvait simplement qu'elle avait repris ces derniers temps la liberté de les manifester à sa guise et, peut-être, à qui elle voudrait. Cette pensée le fit souffrir. Il s'était cru plus vieux, moins vulnérable, habilement retranché derrière ses goûts étranges et une façon inhabituelle de voir le monde. Il le voyait, eût-on dit en coupe, à la manière des géologues, les personnes, les animaux, les insectes et même la terre, plongeant ses regards au centre du monde. Là où d'autres s'inquiètent de découvrir, à côté ou au-dessus d'eux, des univers d'une infinie complexité, il en tirait un singulier réconfort. Depuis l'enfance, il craignait bien plus les mouvements incompréhensibles du cœur que ceux de la nature. Les instincts, les règles d'organisation, les rythmes sur lui communiquaient une apaisante ferveur. Il restait des heures à contempler ces ruches, qui résumaient pour lui l'ordre absent de la vie de tous les jours et qu'il ne pouvait se résoudre à chercher dans la mort. Il n'était jamais triste. Le soir venu, plongé dans elle histoire naturelle de Buffon, il s'amusait de cet ordre comme s'il était né, cette fois, des rêveries d'un fantaisiste inspiré. Le souvenir des guerres l'affermissait dans ses habitudes contemplatives. Il était sorti de chez lui, avait vu des batailles, c'est-à-dire qu'il avait vu des météorites de chair lancés les uns contre les autres, dans un ballet précisément réglé, dont le désordre apparent ajoutait encore à la grandeur. On était là très près du monde des insectes. Il avait moins trouvé dans l'accomplissement ponctuel de ses devoirs une satisfaction morale aisément prévisible que le plaisir secret de servir les desseins d'un dieu caché. C'était eux toujours qu'il scrutait à présent, l'œil rivé au sol sur quelque termitière. Il aurait pu regarder le ciel. Il y avait songé parfois, mais le ciel était trop propre, au moins vu de loin. Il eût été lâche de s'abîmer dans un système si différent. De cet effort qu'il faisait pour avancer vers le fond, l'alchimie lui paraissait le symbole enfantin. Il fallait bien qu'après avoir considéré le monde dans son immense étendue et ses ramifications interminables, on le réduisît à ses origines, aux deux métaux et aux quatre éléments, et que ses couleurs apparussent au gré du feu minéral, qui engendre la chose et la glace et donne naissance au noir de la putréfaction, au blanc des ablutions, au rouge de la rubification, force des couronnements. Ces représentations naïves, outre qu'elles évoquaient des atmosphères flamandes, peut-être d'ailleurs par analogie avec le nom de Nicolas Flamel, sombres, luxuriantes, aussi près du paradis que de l'enfer, le frappaient par ce désir qu'elles exprimaient et qu'il tenait pour sien. Il aimait aussi que l'on pût plonger dans cet univers ténébreux comme la vie et garder l'esprit en paix, que la sérénité fût une condition de la recherche et qu'elle augmentât au fur et à mesure de la descente dans les profondeurs.